La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Comme disait l'autre, bien. La dernière fois que j'ai présenté cette matinale de 19h, c'était il y a un peu moins d'une semaine, à l'occasion de notre dernier Mardi de l'Europe. Donc pour expliquer à nos invités qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'était toutes les semaines pendant la matinale, on recevait des têtes de liste de différents partis pour les européennes, et on parlait de différents sujets. Et la semaine dernière, c'était l'occasion du bilan de la campagne des européennes. Bilan qui m'a amené à poser innocemment la question suivante. Est-ce que la campagne n'était pas un peu trop franco-centrée ? Je pensais pas que ce constat irait aussi loin, je devrais vous avouer. Hein. Bon là, du coup, vous avez, je pense, le sujet de l'éditorial. Un indice, c'est pas sur la victoire d'Alcaraz à Roland-Garros. Vous avez le sujet, et en principe, quand on écrit en édito, on est censé avoir un angle aussi. Donc une espèce de, pour le terme, les gens qui s'y connaissent pas en termes journalistiques, l'angle, c'est l'espèce de porte d'entrée qui vous permet d'ouvrir, de comprendre un sujet, quoi. Là, ce que je viens de faire, par exemple, je pourrais faire une vanne sur Roland-Garros pour parler de Roland-Garros. L'angle, ce serait la victoire d'Alcaraz qui a vengé les victimes de violences conjugales en battant Zverev en finale. Par exemple, si France Télé fait un même sujet sur le Roland-Garros, l'angle ce serait plutôt les casseroles des joueurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile pour jouer une finale de Grand Chelem. On ne sait pas, ça pourrait arriver. Par exemple, Emmanuel Macron, il voit les résultats des européennes, son angle c'est d'aller chez le serrurier pour faire un double de Matignon pour Bardella. On ne sait pas, ça pourrait être ça l'angle. Non mais c'est quand même fou de voir où est allée la nationalisation de ces élections européennes. Bon, ce serait bien la première fois que Macron nationaliserait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à tirer de cette dissolution de l'Assemblée nationale à une heure où sa majorité est désavouée dans les urnes? Peut-être qu'il avait envie de prendre des vacances, qu'il pouvait pas le faire tant qu'il devait gérer Gabriel Attal qui joue avec les boutons de l'ascenseur de Radio France, là comme un enfant de 7 ans, joue avec le carton d'un super méga jouet d'anniversaire. Auquel cas, je peux comprendre, il doit avoir envie de profiter des JO tranquille, tout seul, peinard. Ah mais sinon, peut-être qu'il veut perdre les législatives et essayer de bidouiller derrière pour que ce soit Bardella qui se jette dans la scène à sa place. Peut-être qu'il y a une technique comme ça qui se prépare. Pour le coup, ça aurait son effet, hein, puisque Bardella passerait du beau gosse du parti national tiktokiste aux déchets radioactifs tout droit sorti de la scène, du coup. Et si jamais ce n'est pas pour cette hypothèse qu'il dissout l'Assemblée, il aurait peut-être dû se raviser et continuer de s'occuper de son poulain qui joue tout le temps avec le temps de parole de Valérie Ayé sur France Info. C'est toujours moins dangereux que de jouer avec l'extrême droite, comme il a commencé à le faire hier après 20h. Et évidemment, c'est cette année de présidence dans ce qui précède. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h, 19h04, et à l'occasion, non on va pas du tout parler d'actualité, on va parler plutôt d'actualité sanitaire, on va parler d'un jeu vidéo, un premier jeu vidéo à visée thérapeutique. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Poppins, et dont on va parler dans un instant avec nos invités, docteur Catherine Grosmaître, neuropsychologue responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l'hôpital Necker enfant malade à la PHP, et on en parlera aussi avec Elodie Bernard qui est co-responsable des relations extérieures de Poppins. On continue cette émission avec le Zoom en deuxième partie avec le festival Cabourg Mon Amour avec nos invités, Justine Berthet, graphiste du festival, et Agathe Joachim, chargée de diffusion et de production événementielle. Ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h19, ce sera la chronique d'Esteban, pas du tout 19h19, il y a une erreur dans le tableur Excel, et voilà, bien sûr, bravo Esteban Mirales qui fera une chronique sportive, et vers 19h54 ce sera Rosalie Berthe qui nous parlera de sport tout autant, mais peut-être sous un autre angle, on verra, ce sera la surprise. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9, merci d'écouter la matinale.
La matinale de 19h.
Et on commence donc cette émission avec le jeu vidéo. Donc bonsoir Catherine Grosmaître, vous êtes neuropsychologue responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l'hôpital Necker enfant malade à la PHP. Bienvenue.
Merci, bonsoir à tous.
Et bonsoir Elodie Bernard, vous êtes responsable des relations extérieures de Poppins. Poppins, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu vidéo, le premier jeu vidéo à visée thérapeutique pour aider les personnes en situation de dyslexie. On va en parler dans un instant avec moi pour m'accompagner dans la rédaction. Fabrice Tiercy de la rédaction est avec moi. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir à toi.
Alors comment est née l'idée de créer un jeu vidéo à destination des enfants atteints de dyslexie ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Elodie Bernard peut-être ?
Oui, je vais répondre avec plaisir. Bonsoir.
L'objectif, c'est de venir compléter la prise en charge des enfants dyslexiques, parce que cette prise en charge, déjà, elle est complexe, elle implique un grand nombre de professionnels de santé, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, des neuropsychologues, je ne vais pas tous les citer. Mais cette prise en charge aussi, elle est assez tardive et insuffisante parce que malheureusement, on manque de ces professionnels de santé. Et donc, il y a des listes d'attente qui s'étendent parfois 1 an, 2 ans, 3 ans avant que les enfants puissent être pris en charge. Donc l'objectif de Popin, c'est de venir être un relais à domicile de la prise en charge orthophonique pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants et que leurs symptômes ne s'aggravent pas trop en attente de leur prise en charge.
Et donc c'est une compensation qui est ludique du coup, puisque ça passe par un jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Nous on peut voir en allant sur le site de Popin's, mais aussi en allant sur le Play Store, sur tous les stores, puisque c'est une application un peu qu'on peut télécharger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on peut y retrouver? Est-ce que c'est du mini-jeu qui est destiné à plusieurs effets? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce jeu, Elodie Bernard?
Tout à fait. Alors, c'est effectivement un jeu qu'on peut télécharger sur tablette ou sur smartphone, iOS ou Android, que l'enfant peut utiliser à raison de 20 minutes par jour, pas plus, 3 à 5 fois par semaine. L'objectif est évidemment quand même d'utiliser une partie du temps d'écran recommandé pour cet enfant avec une visée thérapeutique. Et bien sûr, ce qui compte, c'est vraiment la régularité. À l'intérieur de ce jeu, on va trouver deux sortes de mini-jeux. Des mini-jeux de langage qui vont aider l'enfant à travailler sur la segmentation des sons, vraiment travailler le séquencement des sons et des mots, mais je laisserai Catherine Grometre en parler peut-être un peu plus précisément
bien
que
sûr.
Moi. Et également des jeux musicaux, parce qu'on se base sur un grand nombre d'études qui font le lien entre le rythme de la parole et le rythme de la musique, qui vont faire appel à des zones du cerveau qui sont communes et donc qui vont permettre d'aller atteindre les zones du cerveau qui ont besoin d'être un petit peu renforcées chez ces enfants-là. Donc on a vraiment une visée thérapeutique avec cette application.
Est-ce que vous voulez préciser un petit peu, Catherine Grometre, ce qu'on peut trouver?
La dyslexie, ça fait partie des troubles du neurodéveloppement. Et dans les troubles du neurodéveloppement, on a montré que les enfants comme les adultes avaient des compétences rythmiques qui étaient plus faibles, plus fragiles que les personnes tout venantes. Et avec Popin's, on va pouvoir effectivement travailler le rythme. Et en travaillant le rythme, on va travailler le traitement séquentiel à la fois des sons musicaux, mais aussi des sons de la parole et de la lecture. Donc ça, c'est le premier axe de travail de ce jeu. Et le deuxième, qui est beaucoup plus classique, c'est effectivement un travail qui est axé sur, enfin des jeux qui sont axés sur la lecture, l'orthographe, comme on pourrait faire classiquement chez une orthophoniste.
Et justement, on se posait une question par rapport à ce que vous dites. Qu'est-ce qui distingue justement Popin's d'un autre jeu vidéo, sachant qu'on sait que le jeu vidéo a déjà des vertus qui sont reconnues sur le plan du développement psychomoteur ou sur d'autres plans? Comment est-ce qu'on
Alors,
peut distinguer?
Ce qui le distingue essentiellement, je dirais que c'est basé sur de la recherche scientifique. Et chez Popin's, notamment, on a mené une recherche. Donc, on a proposé ce jeu à 154 enfants. C'était une étude, un essai randomisé en double aveugle. Donc la moitié du groupe a reçu Popin's, l'autre moitié un jeu placebo, c'est-à-dire un jeu avec exactement les mêmes personnages, la même musique, etc., mais qui travaillait d'autres choses. Et au bout de 8 semaines, on s'est aperçu, donc les examinateurs ne savaient pas quel jeu avait reçu l'enfant, que les enfants qui avaient reçu Popin's progressaient plus que les autres en lecture, à la fois en termes de fluidité, de rapidité de la lecture, mais de l'exactitude. Ils faisaient moins d'erreurs en lisant que leur père qui avait reçu le placebo.
D'accord. Vous le disiez, du coup, il y a la dyslexie fait partie de troubles neurodéveloppementaux. Ça fait partie des 6 types de troubles dont c'est un trouble de l'apprentissage. Comment vous êtes arrivé plutôt à développer un jeu qui se concentre sur le travail de la dyslexie plutôt
D'accord.
que d'autres troubles dans ce... est-ce que c'est arrivé parce que vous voulez parler de la dyslexie ou parce que comment ça s'est passé?
Alors déjà, parmi les 6 troubles effectivement que vous avez cités du neurodéveloppement, donc les autres qui sont assez connus, il y a par exemple le TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, la dyslexie est le trouble le plus fréquent de tous ces troubles. Donc ça touche 7% de la population, donc à peu près 2 enfants par classe, 5 millions de la population française présente une dyslexie. Donc C'est à la fois un trouble qui peut être sévère, invalidant dans la scolarité des enfants, mais aussi chez l'adulte dans sa vie professionnelle, et pour lesquels la réponse aujourd'hui est bien sûr la première réponse, c'est la rééducation orthophonique, et on manque cruellement d'orthophonistes. Donc c'est un des troubles du neurodéveloppement qui est à la fois le plus fréquent et pour lequel on n'a pas des réponses suffisantes aujourd'hui à apporter à nos patients.
Par rapport à ce que vous dites, justement, en France et encore plus dans les zones rurales, vient vite la question des déserts médicaux qui concerne également donc les orthophonistes. Poppins vient compléter les séances d'orthophonie, mais comment est-ce que le jeu peut aider de manière globale les patients qui vivent dans des déserts médicaux?
Alors, Poppins peut s'insérer à deux niveaux dans le parcours de soins, à la fois en complément de la rééducation orthophonique, mais aussi en attendant une rééducation orthophonique. Puisque donc, je disais qu'il y a à peu près 5 millions de dyslexiques en France, mais il n'y a que 25 000 orthophonistes. Donc, comme vous disait Élodie Bernard, il y a à peu près 18-24 mois d'attente pour pouvoir faire un bilan et avoir une rééducation avec une orthophoniste. Et vous avez raison de le préciser, il y a une vraie disparité entre les régions. Donc il y a des régions dans lesquelles il y a quasiment pas d'orthophonistes. Donc c'est en attendant la prise en charge, voire à la place de la prise en charge, on peut proposer Poppins.
D'accord, donc à la place
ça
quand même.
Ça peut se substituer carrément à
ça n'a pas
à
vocation à substituer, mais dans les faits, on manque tellement d'orthophonistes que ça peut être à la place d'eux.
Et est-ce que justement Élodie Bernard, du coup Poppins c'est aussi une start-up, est-ce que ça aurait vocation à il y aurait Poppins, mais est-ce qu'il y aurait d'autres jeux à vocation thérapeutique aussi que ce soit pour la dyslexie, pour compléter les apports de Poppins sur la dyslexie ou sur d'autres troubles, est-ce que vous y travaillez déjà
c'est l'idée, ouais, on
à créer
travaille.
Un conglomérat un peu de jeux
On aimerait bien. Déjà, c'est vrai qu'avant de proposer Poppins aux familles, il y a eu plus de 5 ans de recherche clinique. En parallèle du lancement de Poppins, on est en train de travailler aussi avec d'autres études cliniques, déjà pour pouvoir en apprendre plus sur la façon dont Poppins peut s'intégrer dans les parcours de soins. Mais également, on se demande quels sont les autres troubles du neurodéveloppement chez l'enfant que l'on pourrait aller adresser avec des jeux vidéo, en particulier par la musique.
Fabrice ?
Pour creuser un peu plus dans Poppins, depuis quand existe l'entreprise, la start-up, et depuis combien de temps vous travaillez sur ce jeu-là ?
La start-up existe depuis 2018. À l'origine, c'est un projet de recherche qui est à la croisée entre Polytechnique, là où a fait ses études le cofondateur et président François Ventron, et puis avec des programmes de recherche, notamment du professeur Michel Habib à l'hôpital de la Timone à Marseille. L'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut prendre des protocoles qui fonctionnent et les mettre dans un jeu vidéo pour que ce soit plus accessible pour les enfants, plus ludique, parce que l'idée, c'est de se dire, si on veut que les enfants utilisent ce dispositif que l'on pense utile, il faut que ça lui plaise, il faut qu'il ait envie d'y revenir le lendemain, parce que la régularité, ça va être en fait l'observance, quelque part, du traitement.
Et plus précisément, comment est-ce que ça a émergé ? Est-ce que vous... comment est-ce que, entre le milieu hospitalier et puis justement le cofondateur, comment est-ce que l'idée est venue en surface et a pris forme ?
Alors, l'idée, à la base, déjà, elle est vraiment de se demander qu'est-ce que la musique peut apporter dans le développement des enfants d'une manière générale. Il y a des initiatives, notamment comme El Sistema au Venezuela ou des Harmony Project aux États-Unis, qui ont passionné François Ventron depuis très très longtemps. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut sortir les enfants des bidonvilles grâce à la musique, les mettre dans un orchestre, etc. Donc, vraiment, l'idée de base, c'est comment est-ce que la musique peut être utile dans le développement de l'enfant. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, évidemment, avec la musique. Il a croisé la route du professeur Michel Habib, qui travaillait sur ces protocoles de rééducation des troubles de neurodéveloppement par la musique. Et l'objectif a été tout de suite de se dire, OK, on va le faire, on va le mettre dans un jeu vidéo. Voilà, l'équipe qui était au début composée de 4 personnes a travaillé une première version du jeu. Et en 2020, alors que la France se confinait, la Fédération française des dys, qui est la principale association de patients représentative des personnes dys en France, s'est rapprochée de l'équipe de Poppins et a demandé à mettre à disposition des 6000 familles confinées et qui ont des enfants dys la version du jeu qui était à ce moment-là développée. Donc on était encore sur une version bêta. On pensait avoir 40 ou 50 familles qui utiliseraient cette version du jeu, du coup qui pourraient avoir quelque chose à proposer proposer à leur enfant et puis qu'ils nous feraient des retours pour qu'on puisse améliorer le jeu, qui était encore une version qui n'était pas complètement aboutie. On a eu 6000 familles qui ont testé le jeu. Ça nous a donné beaucoup de feedback, ça nous a énormément aidé à l'améliorer et puis à obtenir la version qui ensuite a fait l'objet de l'étude clinique dont Catherine Gremettre a parlé tout à l'heure. Donc ça a été vraiment un travail de co-construction aussi bien avec les chercheurs qu'avec les familles pour pouvoir arriver à un outil qui soit à la fois ludique et efficace.
Mais donc c'est à la base donc de ce projet-là, c'est la musique en vérité. C'est pas directement le vidéo ludique quoi. C'est le jeu vidéo au final, ça devient la
Le support, ouais. Tout à fait, le support. Oui, tout à fait. Effectivement, Michel Habib a montré que de travailler le rythme avec les enfants, mais travailler le rythme sans support vidéo, permettait de les faire progresser. Donc, c'est pas parti au départ d'un jeu vidéo, effectivement.
Et c'est intéressant parce que là, j'invite évidemment les auditeuristes à aller voir des images du jeu, pourquoi pas même le télécharger. Quand on parlait de tous les mini-jeux qui existent, c'est quand même, on parle pas forcément que de jeux sérieux où on peut avoir des grilles de LED, des choses comme ça, enfin, des choses qui peuvent paraître un peu anciennes, quoi. Enfin, on est vraiment sur des petites aventures, enfin, et des boutons peuvent être juste des lettres à utiliser, enfin, il y a énormément c'est une vraie richesse quand même qui a été créée dans le cadre de Poppins quoi,
Oui, c'est vrai qu'à l'origine l'idée c'était vraiment de prendre ces protocoles de rééducation rythmique et de les mettre à disposition des enfants. À partir du moment où on s'est dit on va les mettre à disposition des enfants, il faut que ça leur plaise. Donc quand la décision a été prise de faire ça avec un jeu vidéo, on a travaillé avec des personnes qui sont spécialistes du jeu vidéo depuis 20 ans. Donc effectivement, ça ressemble à un jeu vidéo plus qu'à un outil thérapeutique qui peut être un petit peu ennuyeux. On a travaillé notamment avec Ubisoft et avec des personnes qui sont dans le jeu vidéo, pas uniquement thérapeutique, depuis un grand nombre d'années, pour que toutes les mécaniques de jeux vidéo les plus actuelles soient intégrées dans ce jeu pour que ça plaise le plus possible d'enfants.
Eh bien, on va en parler de ce jeu, on continue d'en parler. Vous restez avec nous, Élodie Bernard. Je vous rappelle que vous êtes responsable des relations extérieures de Poppins. Et Catherine Gromet, vous êtes neuropsychologue et vous avez participé du coup à l'élaboration de ce jeu. On continue, vous écoutez la matinale de 19h. On revient juste après cette pause musicale.
Too much fun.
C'était Seven Sins de Skip the Use, qu'on devrait rebaptiser ce soir Skip Euro, hein, évidemment, vu comment on a sapé les résultats d'hier, 19h21.
La matinale de 19h.
Et vous écoutez toujours la matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h et notre grand sujet continue, on est toujours avec Catherine Gromet. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l'hôpital Necker Enfant Malade de la PHP. Et nous sommes aussi avec Elodie Bernard, vous êtes responsable des relations extérieures de Popine. Donc Popine, un jeu vidéo qui a vocation, qu'on peut télécharger dès maintenant, hein. Vous pouvez aller sur les Play Store ou sur l'Apple Store pour le télécharger. C'est un jeu vidéo qui a vocation à aider les enfants atteints de dyslexie, donc des enfants entre
d'âge
7,
primaire.
C'est
voilà.
Ça, d'âge primaire. Donc c'est entre 7 et 12 ans, c'est ça à peu près.
Voilà.
On va en parler aussi peut-être de cette tranche d'âge et de comment le jeu vidéo peut avoir quel jeu vidéo thérapeutique aussi pour les personnes plus âgées. Je ne sais pas si c'est une question que vous posez aussi. On parlait du développement que vous vouliez apporter à Popine, c'est créer d'autres jeux à visée thérapeutique. Comment le jeu vidéo pourrait exister pour d'autres tranches d'âge et pour d'autres troubles. Peut-être une réponse partagée, peut-être d'abord Elodie Bernard et après Catherine Gromet, vous pourrez peut-être toucher un mot avec votre avis d'experte.
C'est vrai qu'à l'origine, on s'est vraiment concentré sur les enfants d'âge école primaire, parce que c'est le moment où on apprend à lire. Donc il faut apprendre à lire pour pouvoir se rendre compte qu'on a des difficultés de lecture. Évidemment, avant, c'est trop tôt. Mais si on attend trop, l'enfant n'a pas accès à tous les apprentissages fondamentaux, parce que quand on a du mal à lire les consignes, même pour les mathématiques ou les autres matières, l'enfant peut vite être en décrochage. Donc on s'est vraiment concentré sur cette tranche d'âge en priorité, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les enfants ont besoin d'avoir une prise en charge précoce. On peut quand même utiliser Popins également pour les enfants qui sont au collège. Maintenant, c'est vrai que le jeu a été vraiment conçu pour des enfants très jeunes. On est en train d'essayer de développer aussi des univers de jeux qui vont plaire aux plus grands. Mais voilà, notre priorité, ça va être vraiment, pour la raison que je viens de donner, de se concentrer sur les enfants d'âge école primaire.
Catherine Gromet, vous voulez compléter cette réponse ?
Volontiers. La dyslexie, c'est effectivement un trouble qui, à la fois, qui peut être de degré de sévérité varié, mais en tout cas qui est persistant dans le temps. Et donc l'enfant qui a des difficultés dès l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire dès le CP, elles vont perdurer ces difficultés et il y a de grandes chances qu'il les présente encore au collège, voire à l'âge adulte. Donc effectivement, le jeu existant est plus adapté pour les enfants d'âge primaire, mais voilà, si Popins crée un jeu pour les plus grands, il y aura des tas de patients qui pourront en bénéficier.
Et justement, donc vous, comment vous vous êtes greffé à ce projet-là aussi ? Enfin, comment vous avez travaillé aussi avec Popine sur le développement du jeu ? Enfin, ça, c'est une question qu'on se posait en préparant l'interview. Comment vous êtes intervenu sur le développement des jeux, sur est-ce que vous les avez même testés ? Enfin, comment ça s'est passé l'interaction entre vous et la structure ?
Alors, Elodie tout à l'heure parlait de l'interaction qui est constante entre les familles et Popins pour constamment adapter le jeu, prendre en compte effectivement l'aspect motivationnel, comment les enfants progressent, etc. Mais Popins prend aussi en compte les besoins des professionnels et de la réalité du terrain. Et nous, en tant que CERTALA, donc Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, on voit des enfants qui ont des troubles particulièrement sévères et on est plus à même, enfin, on a un avis à apporter sur quels sont les outils qui sont les plus adaptés pour ces enfants et qui pourraient les faire progresser au mieux. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, aujourd'hui, on est prescripteur de ces jeux, c'est-à-dire que on conseille aux enfants qui ont une prise en charge pour compléter leur prise en charge ou à ceux qui n'en ont pas d'utiliser ce jeu.
Créer ce jeu, ça a quand même demandé un certain nombre de partenaires. Et donc derrière, vient la question du financement. Comment est-ce qu'on finance un tel projet avec autant de partenaires, d'acteurs pour le développement de ce jeu ?
Alors aujourd'hui,
Elodie Bernard.
Merci. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui nous soutiennent. On a réalisé deux levées de fonds jusqu'à présent, une en 2021, une en 2023. Parmi nos investisseurs, on a BPI France via le fonds patient autonome. C'est-à-dire, en fait, c'est le fonds de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est assez intéressant, qui investit dans ce type de projet. Et on a également BNP Paribas Développement, Kurma Partners, et puis depuis la dernière levée de fonds, le fonds Euraseo, qui est un fonds qui soutient énormément de projets, notamment technologiques, et qui sont dans la vie quotidienne des Français. Je les cite parce que, de la même manière qu'on travaille vraiment de manière très étroite avec les professionnels de santé, avec les familles, nos investisseurs nous aident aussi énormément, pas à pas, dans le développement de l'entreprise et la manière dont on va pouvoir s'intégrer dans les parcours de soins et dans la vie des Français. L'objectif n'est pas d'avoir un produit qui soit complètement hors sol et déconnecté de la réalité, mais il nous conseille aussi énormément sur la bonne manière de le développer, de le rendre accessible au plus grand nombre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, on a des investisseurs qui nous soutiennent pour qu'on puisse mener des études scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de mener des études scientifiques, mais c'est nécessaire pour valider l'intérêt thérapeutique de l'outil qu'on met à disposition des familles.
Et justement, dans l'idée de la prise en charge, dans la perspective thérapeutique du jeu, est-ce que vous travaillez chez Poppins à ce que ça puisse être pris par les assurances, pris en charge? Comment vous y prenez exactement?
Alors, notre objectif premier, sur lequel on travaille depuis des années et on espère en voir le bout en 2025, donc c'est demain, c'est que le programme thérapeutique Poppins soit pris en charge par l'assurance maladie. C'est un dispositif médical, donc on se conforme à énormément de règles qui sont communes pratiquement en fait à un médicament. Et on est en train de travailler à déposer un dossier de prise en charge anticipée pour des outils numériques. C'est ça s'appelle le PECOR, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est censé encadrer les dispositifs médicaux numériques et leur prise en charge. Donc notre objectif, c'est vraiment que ce soit pris en charge par l'assurance maladie et on y travaille, on espère que ce sera le cas à partir de 2025. En attendant, on cherche des tiers payeurs pour que le coût de la thérapie ne repose pas exclusivement sur les familles, parce qu'il y a déjà de grandes disparités financières, la prise en charge de ces enfants demande énormément de professionnels de santé qui ne sont pas tous pris en charge par l'assurance maladie, donc ça coûte assez cher aux familles. Donc nous, on essaye de faire en sorte que le coût repose le moins possible sur la famille. On a des partenaires, notamment des complémentaires santé, qui sont là pour prendre en charge le coût de la thérapie à 100% et la mettre à disposition de leurs adhérents. Donc on peut citer Aesio Mutuel, ProBTP, Abeille Assurance, je ne vais pas tous les citer. Et également Alliance France, qui a aussi une démarche assez intéressante, qui le met à disposition de ses collaborateurs. Et on est aussi en train d'étudier avec eux une mise à disposition de leurs clients. Donc on cherche vraiment des tiers payeurs de manière à pouvoir garantir une égalité d'accès à toutes les familles, peu importe leur niveau de revenu. Et le dernier point par rapport à notre combat pour l'accessibilité, c'est qu'on offre le dispositif aux familles qui sont à la complémentaire santé solidaire, donc les familles les plus modestes, pour pouvoir encore une fois garantir l'accès aux fruits de la recherche à toutes les familles.
Et donc il y a cette perspective du coup que le Poppins soit pris en charge par la sécurité sociale. Comment matériellement ça peut aussi se concrétiser? Parce que c'est pas, comme on le disait, c'est quelque chose qu'on trouve en ligne. Enfin, c'est pas, on va pas aller chercher Poppins en pharmacie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas le... Comment ça va se passer ça? Est-ce qu'il y a déjà des exemples de choses qui existent, d'applications qui sont remboursées, de choses comme ça, ou dans le numérique, enfin, comment ça se passe
Alors ça commence, en fait ça commence, c'est quelque chose qui est un petit peu plus développé en Allemagne pour l'instant avec ce qui s'appelle le DIGA, qui est l'équivalent de notre PECAN, désolé pour le jargon. En France, il y a déjà quelques dispositifs médicaux numériques qui commencent à être pris en charge, mais c'est vrai que le modèle est en train d'être écrit. Parce que pour être pris en charge, il faut que ce soit prescrit, donc ça veut dire qu'il faut aussi que les prescripteurs, donc les orthophonistes, les pédiatres, les médecins généralistes, soit dans la boucle, soit sensibilisés à cette thérapie, soit convaincus qu'il faut le prescrire à leurs patients. Après, c'est de leur liberté, évidemment. Mais tout ce parcours de prescription et de remboursement, il est en train d'être écrit parce que ces dispositifs médicaux numériques, c'est nouveau. Ça va de plus en plus se trouver, mais on est vraiment en train d'écrire l'histoire.
C'est une chose aussi que vous posez, même dans le travail à l'hôpital Necker, Catherine Grosmaître. L'arrivée du numérique
Bien sûr. Il existe aujourd'hui une multitude d'applications qui permettent de travailler des tas de fonctions cognitives, mais quasiment aucune n'est basée sur des études scientifiques. Donc, à l'hôpital, on ne peut prescrire que des outils qui ont fait leurs preuves par le biais d'études sérieuses.
Et ça demande combien de temps, juste, en fait, de développer, de repartir sur des études pour pouvoir développer et avoir une application aboutie. Là,
dans
Popin,
le cas de Popin, c'était 6 ans. Ouais,
voilà,
ouais,
ça se compte en années, mais... puisqu'il y a effectivement la recherche, mais ensuite, il y a la publication derrière. Qui dit publication, dit validation par ses pairs scientifiques. Donc, ça se compte effectivement en années.
D'accord. Année, est-ce que là, comme ça, on peut dire 2, 5 ans, plus, ou c'est complètement variable ?
Ça dépend de la recherche. Je sais pas qui veut répondre.
Je pense que ça va dépendre de la recherche, effectivement. Nous on a basé nos travaux sur des études qui avaient été faites auparavant par d'autres personnes. On s'est basé sur une théorie scientifique, on a conçu un outil qui se conformait à cette théorie scientifique, et ensuite on a fait une étude pour valider que cet outil fonctionnait. Voilà, cette étude, elle a duré 2 ans. Ça fait presque 1 an qu'elle est terminée. La publication des résultats est en cours. Donc voilà, comme on le disait, ça prend plusieurs années. Et puis évidemment, la conception du jeu vidéo, les allers-retours avec les familles, le fait que ça fonctionne, etc., ça prend pas mal de temps.
Oui, surtout le jeu vidéo, c'est quand même un temps aussi de création qui est extrêmement long. Enfin, ouais. Le développement informatique, on le voit pour le jeu vidéo, mais on le voit aussi pour l'animation audiovisuelle. Enfin, c'est un temps effectivement qui est extrêmement long. Popin, c'est un jeu, on le disait, qui est adapté aux enfants primaires, c'est ça c'est le bon terme, les enfants du coup âgés de 7 à 12 ans à peu près. Comment on intègre cette problématique du numérique, notamment l'exposition aux écrans, quand on développe une telle application? Je ne sais pas qui veut répondre, Catherine Gromette, peut-être. Comment on... Il y a cette limite de 20 minutes déjà, mais comment philosophiquement ça se passe, comment?
L'OMS recommande pour cet âge 1 heure d'écran par jour. Ce qui est important, c'est que ce soit des temps d'écran accompagnés par les parents. Donc là, c'est le cas, avec des limites effectivement de 20 minutes par jour. Et il faut que ce soit encadré par la famille, accompagné.
Et ça contraindrait, par exemple, le développement de jeux qui pourraient aller pour des enfants qui seraient beaucoup plus jeunes. Alors, peut-être pas forcément pour la dyslexie, parce que ça poserait...
Tout à fait, puisqu'on recommande très peu d'écran, voire pas d'écran pour les moins de 3 ans, puisque ça a un impact sur le développement langagier des enfants, et environ une demi-heure par jour pour les 3-6 ans. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Popin's aille sur les plus jeunes. Je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui pour le développement de nouveaux jeux, c'est plutôt soit pour effectivement des tranches d'âge plus âgées, soit pour des pathologies associées à la dyslexie pour la tranche d'âge primaire.
Eh bien, on suivra le développement des jeux futurs. Merci beaucoup, Catherine Grosmaître et Elodie Bernard, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle qu'on peut aller sur les Play Store, sur l'Apple Store, enfin, sur tout ce qui est Play et où il y a Store dedans. On peut y aller pour télécharger le jeu Popin's, et on peut aussi trouver sur Internet Popin's. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous, il est 19h34.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et entre dans le studio juste avant la pause musicale, Esteban Mirales. Bonsoir à toi, Esteban. Il me semble qu'il y a une chronique sportive qui se prépare.
C'est ça, parce que hier, l'information principale de la journée, c'était pas les élections, c'était la finale de Roland-Garros. Et oui, hier, le 9 juin, consécration pour le jeune Carlos Alcaraz. Victoire en 5 manches, 6-3, 2-6, 5-7, 6-2, 6-1, en 4h20 contre Alexander Zverev, qui avait gagné Rome quelques jours auparavant, et qui avait éliminé notamment et qui avait éliminé notamment Rafael Nadal au premier tour, on s'en souvient. Alors, le jeune espagnol de 21 ans, c'est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à remporter 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes, puisque après l'US Open 2022 et Wimbledon 2023 contre Novak Djokovic, c'est donc le 3e tournoi du grand chelem pour Carlitos, qui est un joueur hors norme, un talent si précoce qui, en fait, moi, ce qui m'impressionne avec lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'énormément de temps de jeu pour retrouver toutes ses qualités tennistiques, et notamment il n'a pas joué le tournoi de Rome parce qu'il avait des grosses douleurs à l'avant-bras, il avait un œdème, et c'est le premier joueur depuis 1994 et Sergi Bruguera à gagner Roland-Garros sans s'être aligné sur le tournoi de Rome. C'est dire un peu la folie que représente ce joueur. C'est un génie absolu qui possède tous les coups du tennis, et on va le revoir très rapidement là, puisque dans une semaine il va défendre 500 points au tournoi du Queens. Il est tenant du titre là-bas, et puis ensuite on va enchaîner
donc avec la saison pour sur gazon.
C'est ça, début de saison sur gazon, et ensuite directement on enchaînera avec Wimbledon où il est tenant du titre. Et on va le revoir très bientôt en fait, Port d'Auteuil. On va pas attendre l'année prochaine parce qu'on va avoir les Jeux Olympiques, et on va sûrement le voir en double avec le maître des lieux Raphaël Nadal, l'homme qui possède les clés du court Philippe Chatrier. Et ça, je peux vous dire que si cette association a lieu, on risque d'avoir quelques photographies assez iconiques. Donc affaire à suivre. Et en tout cas, moi aujourd'hui, je tenais à dire au nom de tous les supporters de tennis que ce Roland-Garros a été quand même assez beau sur le terrain. Alors il y a eu certains petits problèmes en disons dans les tribunes avec les loges qui sont à trois quarts vides, mais ça c'est un autre débat. Mais sur le terrain, en tout cas, les joueurs ont livré de très beaux combats, de très beaux spectacles, et ça c'est bon pour la pub pour le tennis. Voilà.
Effectivement, merci beaucoup Esteban Mirales pour cette mise au point sur la fin du tournoi Porte d'Auteuil hier. En plus, il a eu la sympathie de brandir la coupe juste avant les résultats, les premières estimations des Européennes.
Ça nous a fait un peu changer d'air.
Extrêmement bien goupillé cette histoire. Merci beaucoup Esteban. 19h37, une deuxième pause musicale s'offre à vous sur Radio Campus Paris. Et ensuite, on va arriver avec le Zoom. A tout de suite. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Chanteuse qui démarre évidemment avec le titre Illusion. Vous écoutez Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et on passe au Zoom, un Zoom sous le signe de la musique. Et on retrouve Fabrice Tiercy qui n'a pas bougé de sa chaise. Re-salut à toi.
Là, ouais, pour le festival Cabourg Mon Amour. Et on est avec Justine Berthet, donc graphiste du festival, et Agathe Joachim, chargée de diffusion et de production événementielle. Merci à vous d'être là.
Bienvenue
à
vous. Merci, bonsoir.
Alors, on fête les 10 ans là, du festival cette année, c'est ça?
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre 2014 et aujourd'hui dans le contexte du festival Cabourg Mon Amour?
Le Parlement européen, déjà, ça a bien changé déjà.
Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours un festival de musique actuelle. C'est vraiment un rendez-vous incontournable pour la musique émergente. Chaque année, on s'évertue à faire rayonner des artistes émergents, des pépites qui rempliront les Cigales ou les Olympias de demain. On a par exemple eu des artistes comme Angèle, Impératrice, ou plus récemment Zao de Sagazan et Pierre Demar. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir citer ces noms-là. Mais ce qui a changé...
Après, on essaye d'être de plus en plus présent en Normandie, parce que du coup, c'est un festival qui se place en Normandie, donc sur la plage. Et on essaye de plus en plus se rapprocher des Normands, notamment en programmant certains artistes qui sont vraiment originaires de la région. Donc voilà, puis en accueillant de plus en plus de festivaliers, évidemment.
Ok. Et là, dans tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès du festival? Qu'est-ce qui a permis au festival de perdurer, d'atteindre les 10 ans?
Notre force principale, tout d'abord, c'est le cadre. C'est vraiment un festival de musique. On est les pieds dans le sable, vraiment sur la plage, donc c'est hyper agréable. Donc le cadre est vraiment top. Et en plus, on présente des artistes émergents. Donc c'est vraiment de belles découvertes à chaque fois. On vient pas forcément pour des têtes d'affiche, mais vraiment pour découvrir des artistes. Et c'est agréable, j'imagine, pour les festivaliers de ensuite suivre les artistes, les voir évoluer, les voir grandir, tout simplement. Donc je pense que c'est ça qui fait la force du festival.
C'est quoi la couleur de cette année? Quel est le thème dominant? Qu'est-ce qui va distinguer cette édition des autres?
La couleur, c'est le bleu, toujours, pour la mer, évidemment. Et non, après, on essaye de préparer pas mal de surprises pour les 10 ans.
D'accord.
Pour fêter ça avec les festivaliers et les artistes.
Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur les surprises ou...
ah.
Quelques indices?
On a encore un nom à annoncer. Donc, donc voilà, une tête d'affiche. Donc voilà, et puis après pas mal de choses présentes sur le festival.
Ok, on est au bord de la mer, on est en Normandie, on parle un peu de spécialités gastronomiques. Qu'est-ce qu'on trouvera autour de la table?
Beaucoup de producteurs locaux, pour en citer quelques-uns, donc Goéland, donc une marque de cidre, Pomo de Normandie avec leur fameux Pocito, un cocktail qu'on apprécie plutôt bien. Mais également Le Grand Bleu, par exemple, qui viendra présenter un stand pour des huîtres, des bulots, etc., pour vraiment profiter au maximum sur place.
D'accord, donc du cidre, des huîtres, grosso modo, des fruits de mer.
C'est un peu le thème,
un
voilà.
Un peu de poisson aussi, j'imagine.
Oui, évidemment. Ouais.
D'accord.
Juste le pocito, pardon, c'est du poiré avec autre chose, c'est ça ou
c'est qu'est-ce que c'est? Du pomo.
Du pomo, d'accord, ouais. Ok.
Ok, Fabrice. Très bien, très bien. Et comment est-ce que vous faites la promotion de tout ça? C'est vraiment par le festival, c'est par le lieu ou il y a d'autres canaux de communication?
On communique beaucoup par Instagram et les réseaux sociaux. Après,
on essaye aussi d'organiser quelques événements sur la région, évidemment, pour vraiment promouvoir le festival, inviter la presse, évidemment, et quelques artistes pour que tout le monde puisse se rencontrer et ensuite parler du festival sur ces canaux-là.
Donc ça va au-delà des 3 jours, donc les 20, 21 et 22 juin.
C'est ça.
D'accord, c'est beaucoup plus large comme période.
Oui.
Quel type de public assiste à ce festival-là? Vous avez parlé des Normands, mais bon, est-ce que vous essayez de toucher les jeunes, les un peu moins jeunes
Cette année, on essaie de toucher plus particulièrement les jeunes avec une programmation très jeune, très urbaine. D'accord. Aussi. On essaie d'avoir un public aussi beaucoup plus normand parce qu'actuellement, on a un public très parisien.
D'accord. Okay.
Et voilà, on essaie d'attirer beaucoup plus de Normands au festival en accueillant notamment des artistes comme Passager, JER ou Joseph Kamel qui sont normands et qui participent au rayonnement aussi de la région.
Donc la tranche d'âge, ce serait entre...
Principalement, c'est entre 18 et 35 ans. C'est quand même assez jeune. Mais après, forcément, toutes les personnes sont les bienvenues.
D'accord.
donc voilà.
On revient à l'organisation Pied dans le Sable. On a le droit depuis juillet 2023, on l'a vu encore aujourd'hui, à la succession d'une mauvaise météo. En termes d'organisation, ouais. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère la combinaison mauvais temps et Pied dans le Sable?
Malheureusement, on peut pas trop prévoir. En Normandie, comme on dit souvent, il y a vraiment les 4 saisons dans la journée. Donc, on sait qu'il y a quand même une forte probabilité d'avoir un petit moment de pluie. Mais on croise les doigts au maximum. Et puis, on essaie de faire en sorte que, malgré ça, les festivaliers soient vraiment à l'aise et passent un bon moment sur le festival.
Puis, avec un peu de chance, il y a un arc-en-ciel. Donc, du coup,
ça
rendra la thématique
ça mélange un peu
plus,
tout,
encore plus jolie.
Exactement.
Vous avez d'autres souvenirs comme ça, en fait, de week-end de festival où il y a eu une mauvaise météo? Comment vous avez pu gérer ça? Un petit retour d'expérience?
L'année dernière, notamment, il y avait eu de la pluie sur une soirée, mais les festivaliers avaient quand même passé un bon moment. C'était Lewis Hoffman qui passait à ce moment-là, et le moment était trop trop chouette, les lumières étaient trop bien, donc ça faisait vraiment un moment fou à vivre tout ensemble, et puis c'était vraiment plus cool.
On assiste toujours à un beau coucher de soleil sur la mer le soir, donc c'est toujours très agréable, et ça fait oublier le mauvais temps.
Voilà.
Ouais, c'est chouette ça. Quand on parle de festival, on parle vite de bilan carbone, surtout là en ce moment. Comment se place la durabilité et l'écologie au sein du festival ?
Du coup, comme on en a parlé, on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux pour vraiment justement réduire ce bilan carbone et essayer d'être de plus en plus vert. Donc voilà, puis après on a fait quelques études au niveau de la plage, on sait que c'est pas quelque chose qui vient forcément détériorer les espèces marines ou autres, donc on essaie vraiment de faire le plus attention possible.
Et il y a une sensibilité auprès des festivaliers, est-ce que vous ressentez qu'il y a quand même une sensibilité à prendre soin de la plage, de ne pas laisser traîner les déchets, de ramener systématiquement les éco-cups
Complètement, surtout que c'est vraiment un festival qui est à taille humaine. On a une jauge de 2000 personnes par jour, donc on sait que les festivaliers ne sont pas là pour dégrader un maximum. Tout le monde fait plutôt attention et essaye de bien se gérer et gérer sa consommation.
D'accord. Et en termes de système son, pour l'alimentation, est-ce que c'est une alimentation... c'est un peu technique, mais est-ce que l'alimentation, elle est...
On est sur combien de watts ?
Sur du technique, sur du thermique, de l'électrique. Est-ce que ça pense un peu à ça ? Peut-être que c'est un peu trop technique comme question.
Je pense que c'est un peu trop technique comme question.
On n'est pas les personnes les plus qualifiées.
On est allé un peu loin.
EDF, Enedis, comment ça se passe ? Il y a quand même une
prise de conscience écologique au sein de ce festival.
D'accord.
Et il y a d'autres axes que vous avez envie de creuser dans ce sens-là ou pas ?
Dans ce sens-là, en termes artistiques, la majorité des artistes viennent en train.
D'accord.
On insiste là-dessus quand c'est possible de le faire. Voilà. Après.
Oui, complètement. Ouais. Sur à peu près tous les aspects, on essaie vraiment de réfléchir à quelle serait la meilleure solution entre le plus pratique et le plus responsable.
Cabourg, c'est une ville qui accueille aussi un festival du film. De mémoire, c'est un festival du film romantique.
Oui.
Là, votre festival, c'est Cabourg, mon amour. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une thématique autour de Cabourg ? Peut-être pour les Parisiens et les Parisiennes qui ne connaîtraient pas la ville, est-ce que c'est une ville qui est fortement marquée par le romantisme et par la question de l'amour ? Ou est-ce que c'est un hasard qu'il y ait ces deux festivals qui côtoient la même ville et qui se côtoient indirectement, je dirais, à travers cette thématique-là ? C'est une question un peu ouverte, hein. Vraiment, il n'y a pas de réponse piège.
C'était la même question que le sound system, hein. On est à peu près dans le même thème.
Oui, je pense que le festival du film a également la même volonté de vraiment romantiser la ville au maximum. Dans notre cas, en tout cas, on accueille beaucoup de Parisiens. Donc effectivement, on essaie de vraiment représenter une valeur ajoutée, de romantiser au maximum pour vraiment attirer le plus de gens possible sur le site.
Eh bien, on note en tout cas le festival Cabourg, mon amour, du coup, c'est bientôt. Peut-être Fabrice, si tu veux rappeler.
20, 21, 22 juin, si je ne me trompe pas. Donc, sur les plages, pieds dans le sable, allez-y en tong.
Exactement.
Pas mal.
Tout à fait.
Et on espère qu'il y aura une belle météo.
On
vous le souhaite vivement. Merci beaucoup Justine Berthet et Agathe Joachim d'avoir été au micro de la matinale de 19h. On peut trouver plus d'informations sur le festival en allant sur le site de Cabourg.
Oui, tout à fait, ou sur les réseaux sociaux.
Ou sur les réseaux sociaux, évidemment. Les auditeuristes y sont les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro. 19h49, la matinale, c'est bientôt terminé pour ce soir. Il y aura la chronique de Rosalie dans un instant, mais d'abord, une dernière pause musicale.
Walls fall down. This woman knows how to make the world go round. And just like gravity, we breaking ground. I'll be your home, I can be your kingdom.
When the rhythm might vibrate, then body got you burning for the sun, sun, sun. And it is only on ja, ja, ja. You know I'm bushy like that, that, that. Happy to make you detach your cable. Melody fire, sweet fast is stable. Kilo desire, I'm willing and able. So if you're ready for me, let's go.
C'était My Love de Lee Ann featuring Aria Star sur Radio Campus Paris. Il est 19h52.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et on termine cette émission avec la minute métier. Bienvenue, c'est proposé par Pau d'emploi, un service non agréé de l'État. Dans un monde en pleine évolution des emplois, on retrouve notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas. Et on retrouve Alice. Bonsoir Alice. Vous avez un métier particulier, pouvez-vous nous en parler ?
Oui, je suis directrice du comité des longs métrages qui dure entre 1h43 et 1h48 au ministère de la Culture. Concrètement, je m'occupe d'accepter ou refuser des dossiers de films français.
Et quelles sont vos conditions pour accepter un film ?
Alors, tout d'abord, j'accepte toutes les demandes des réalisateurs de la grande famille du cinéma. On est une famille, on se serre les coudes, même si pour certains, c'est d'autres parties du corps.
J'ai pas compris.
Il y a des gens plus tactiles que les autres.
Comment ça ?
Touche pipi, quoi.
Vous voulez que je touche votre pipi ? C'est dégueulasse. Enfin, on est en studio, en direct. Enfin, on peut pas se permettre d'aller aux toilettes et attendre que vous ayez une envie d'uriner. Enfin,
non, mais c'est pas ça. En plus, je partirai plus sur une grosse commission.
Ah non, excusez-moi, vous n'êtes pas payé pour cette interview. C'était très clair dans le mail. Aucune commission. Non, je sais pas comment ça marche dans votre milieu, mais ici, c'est non. Si vous avez des bitcoins, je serais pas contre.
Ah voilà, on revient au sujet. Donc oui, il y a beaucoup de bits et de comptes dans le milieu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ça va bien ensemble. Mais revenons à mon travail. Le comité et moi-même, on est très friands des synopsis qui ressemblent aux autres. Par exemple, le synopsis d'un jeune dit de banlieue qui réussit dans un milieu où on trouve majoritairement des personnes aisées, où une personne blanche lui vient en aide. Là, vous marquerez un sacré point.
Mais pourquoi ?
Parce que l'humain oublie rapidement les choses et pour retenir une information, il faut au moins le voir 3 fois. Ce qui explique les trilogies en cinéma.
Bon, on est au 20e film de ce genre, là.
Oui, les Français sont très cons.
Pas faux. On a vu ça hier aux Européennes.
Mais attendez, je suis ouverte aux nouvelles propositions de films. Regardez, j'ai accepté qu'un nouvel Astérix et Obélix se fasse.
Mais en quoi c'est nouveau ?
Bah attendez, on a un nouveau réalisateur et des acteurs qui ne se ressemblent plus depuis leur début, c'est quasiment du neuf.
D'accord, comme ça j'ai compris. Oui, bon. Sinon je me demandais pourquoi vous vous occupez seulement des longs métrages qui durent entre 1h43 et 1h48.
Oui, alors ça c'est une toute autre histoire. Hein. C'est toute une histoire.
Oh là.
C'est un comité qui a été créé au pot de départ de Jean-Claude. On a lancé l'idée pour rigoler de faire un comité des longs métrages qui dure entre 1h43 et 1h48. La seule chose, c'est que notre supérieur était sobre et il n'a pas compris la blague. Ce qui fait que le lendemain, on s'est tous retrouvés en réunion pour créer ce comité. Et puis, c'est pas arrêté là. Il a entendu que pendant cette réunion, on voulait fumer des sandwichs. Ce qui fait que ça fait 3 ans qu'on mange des sandwichs au jambon fumé.
Quand j'étais petit, je croyais que le jambon fumé, c'était du jambon qu'on fumait. Enfin bref. Est-ce qu'il y a un type de film que vous attendez de voir mais que personne n'écrit ?
Oui, j'attends un film sur un comité des longs métrages qui dure entre 1h43 et 1h48. Oh, et puis vous savez quoi ? Pourquoi pas un biopic de ma vie ? Voyons les choses en grand.
Ah, d'accord, l'égocentrisme, ça ne touche pas que les réalisateuristes. Parlez-nous des difficultés dans votre travail, par exemple.
Notre ennemi numéro 1, c'est le générique. Il suffit que le générique soit rajouté au dernier moment pour qu'on perde un film à traiter. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme Dolan. Avec un générique de 30 secondes qui inclut les remerciements de ses camarades de classe de la maternelle de Chanterelle à Saint-Brigitte de Laval, de sa fleuriste à Québec et de sa voisine de palier.
Eh ben merci pour ce témoignage et à la semaine prochaine, nous recevrons en première partie une prof de siesting qui propose des séances de sieste dans une morgue. Elle explique sur son site, excusez-moi. Il faut s'entourer des meilleurs siesteurs pour réussir une bonne sieste. Puis nous aurons une chronique s'intitulant Nouveau régime en vogue, la grève de la faim ou comment allier engagement politique et summer body. C'est très bien ça, merci beaucoup
merci à
la production de la minute métier bien sûr, et merci à Rosalie Bern à l'interprétation de cette minute qui part tout de suite négocier les accords de la NUPES.
Exactement.
Donc je te laisse, tu files tout de suite.
Merci beaucoup.
Le temps que je dise au revoir, il y a beaucoup à faire hein, avec évidemment le Parti Socialiste, hein, la France Insoumise, les écologistes, le Parti Communiste Français, pourquoi pas même Michel Rocard qui reviendrait d'outre-tombe, hein, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens, bonne négociation, d'accord Rosalie, merci beaucoup. Eh bien chers amis, je suis tout seul, un peu comme je sais pas comme qui. L'heure pour moi de vous annoncer à 19h56 que la matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui. Merci à Fabrice Thierry à la co-interview ainsi qu'à l'animation du Zoom. Merci à Rosalie Berne et Esteban Mirales pour leurs chroniques respectives. Merci à Maxime Faciotti à la réalisation, bien sûr, bravo, quel virtuose. Et merci beaucoup à Inès Meiris et à Héloïse Robert à la coordination de cette émission. On revient même heure et on parlera une dernière fois des élections européennes, si ça ne dérange pas le calendrier législatif, hein, on ne sait pas trop, peut-être qu'on se serait bien d'en reparler une dernière fois, on ne sait jamais. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts, @lamatinale de 19h sur Twitter et @lamatinale-du-bas. RCP sur Instagram à 20h. Retrouvez Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Salut Julien.
Salut. Eh ben nous aussi on va parler de jeu, mais ce sera sur scène.
Eh ben on attend de découvrir ça dans quelques minutes. Merci beaucoup et passez une très belle soirée, évidemment, sur le 93.9. Et bien cordialement, j'ai envie de dire merci.